Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Il est 15h à Kinshasa, 16h à Goma, au Nord Kivu. Bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici les titres. Ituri, la coordination de la société civile demande à la justice militaire de lancer des mandats d'arrêt contre tous les auteurs de crimes commis dans cette province. C'est en vue de dissuader d'autres criminels qui continuent à commettre des graves violations des droits de l'homme en Ituri. Garder l'espoir de vivre bien que loin de chez soi, c'est le message adressé aux réfugiés vivant à Goma par une femme entrepreneur congolaise. C'est à l'occasion de l'ouverture ce mardi à Goma d'une foire entrepreneuriale qui regroupe des réfugiés et des autochtones. L'invité de ce journal est le médecin pédiatre de la ville de Bukavu au sud Kivu. Docteur Mwanza Nangunia parle de la situation de la drépanocytose en RDC à l'occasion de la commémoration ce 19 juin de la journée mondiale de lutte contre cette maladie. Mesdames, Messieurs, bonjour. En Ituri, la coordination de la société civile demande à la justice militaire de lancer des mandats d'arrêt contre tous les auteurs de crimes commis dans cette province et de ne pas se limiter aux responsables de l'attaque du site de déplacés de Lala où 46 civils ont été tués la semaine dernière dans les territoires de Djougou. Cela en vue de dissuader d'autres criminels qui continuent à commettre de graves violations des droits de l'homme en Ituri. L'auditeur supérieur près la cour militaire précise que cette démarche concerne tous les groupes armés qui ne respectent pas leur engagement de l'État avec Isaac Remouyopé.
La société civile de l'Ituri salue l'émission la semaine dernière par la justice militaire de l'Ituri de 24 mandats d'arrêt contre certains responsables des groupes armés Codeco et Zaïre. Ces derniers sont accusés d'être derrière l'attaque des sites des déplacés de Lala dans les territoires de Djougou dans laquelle 46 civils ont été tués. Selon cette structure, l'auditorat supérieur près la cour militaire de l'Ituri doit étendre ses mandats à tous les groupes armés qui commettent de graves violations des droits de l'homme dans les territoires de Mambasa, d'Irumu, de Mahagi et de Djougou. Cette démarche devrait contribuer à lutter contre l'impunité et à rétablir la paix dans cette province, dit Donné Lossa.
On ne doit pas se limiter aux gens qui ont tué seulement dans les sites. Il y a plusieurs attaques. Tous ces gens-là méritent d'être poursuivis. Tous ceux qui tuent les gens, si on ne les sanctionne pas, s'ils sont libres comme ça, ils vont continuer dans ce sens-là. Qu'on mette la main sur eux, qu'ils soient jugés à public.
L'auditeur supérieur près la cour militaire d'Ituri assure que tous les groupes signataires du dernier accord des paix d'Arou sont concernés par ces mandats d'arrêt, de même que les tireurs de ficelles qui participent à saboter les processus de paix en Ituri, ajoute le colonel Joseph Makelele. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Garder l'espoir de vivre bien que loin de chez soi, c'est le message adressé aux réfugiés vivant à Goma par une femme entrepreneur congolaise. Le message a été lancé hier lundi à l'ouverture d'une foire entrepreneuriale qui regroupe des réfugiés autochtones au stade paralympique de basket de Goma. Cette foire vise à approcher les réfugiés aux entrepreneurs locaux afin que ces réfugiés arrivent également à développer des petites activités génératrices de revenus. C'est une des activités organisées par le ACR à l'occasion de la journée mondiale du réfugié. Sifa Maguru revient sur l'aspect entrepreneurial de cette célébration.
Cette foire est une opportunité pour les réfugiés de nouer des contacts avec les entrepreneurs locaux, indique Madame Lydie Alaka, DG de la société Alacha Multiservice. Il s'agit essentiellement des réfugiés qui possèdent déjà des petites activités d'artisanat, par exemple. Une occasion pour eux de développer des partenariats dans plusieurs domaines et permettre à ces réfugiés de s'en sortir.
Hormis les produits agricoles, nous avons aussi des gammes de produits détergents que nous produisons ici à Goma. Nos frères étrangers, qu'on appelle des réfugiés, ils ont besoin de vivre. Et nous leur donnons l'espoir de vivre, même si ce sont loin de chez soi. Et nous mettrons nos produits aussi à leur disposition.
Assurer les deux bouts du mois reste un casse-tête pour les réfugiés, tout comme plusieurs habitants a témoigné. Ategué Kafura, une des réfugiées rwandaises. Elle pose le constat que l'insécurité rend difficile l'exercice de toute activité socio-économique.
Je vis vers Mugunga. C'est difficile de faire étudier nos enfants. Beaucoup de femmes sont violées lorsqu'elles vont chercher du bois pour nourrir les enfants. Je fabrique des paniers à la main, mais pour trouver un marché, c'est difficile. Il faut les étaler ou circuler avec.
Goma, Sifa Maguru, Radio Kapi.
Le monde célèbre ce mardi 20 juin la journée internationale des réfugiés. Au sud Kivu, 96% des réfugiés burundais, soit 41 064 personnes, sont localisés en territoire de Fizi, ainsi que près de 3 000 demandeurs d'asile burundais. L'ONU a inscrit cette journée sous le thème « L'espoir loin de chez soi pour un monde où les réfugiés auront leur place », tandis qu'en RDC, le thème porte sur « Nous pouvons défendre leur droit de rechercher la sécurité, renforcer et plaider pour trouver la solution à leur ressort ». Des détails avec Fiston Goma.
La pandémie de COVID-19, accentuée actuellement par les conflits entre la Russie et l'Ukraine, a contribué à mettre en mal les conditions de vie des réfugiés vivant dans les territoires de Fizi. Depuis lors, les ressources ont sensiblement diminué. Les réfugiés burundais de Lucinda disent qu'ils n'ont pas reçu de la nourriture depuis 2 mois et aucune autre assistance en ont vivre depuis 8 mois. Et pour cause, le manque d'un calendrier pour la distribution de la ration alimentaire CBT du Programme alimentaire mondial. Beaucoup d'enfants réfugiés ont abandonné l'école et la culture Rundi est en baisse, déplore-t-il. Les responsables de la Commission nationale pour les réfugiés, Sener Baraka, affirment que 3 convois de rapatriement volontaire des réfugiés burundais ont été effectués au cours de cette année vers le Burundi. La plupart des réfugiés désistent au rapatriement pour attendre cette distribution du PAM. La responsable du bureau de terrain Aïsser Baraka, Esther Kashira, reconnaît qu'en dehors des problèmes de ressources et logistiques, d'autres défis dans la zone d'intervention ne relèvent pas de la compétence du Aïsser. C'est notamment l'état de la route entre Baraka et Uvira. La route nationale numéro 5, la seule voie de communication, se trouve dans un état piteux. À ces défis s'ajoute l'instabilité de la zone de Fizi en termes de sécurité. D'Uvira, Fiston Mamayaba, la Radio Kapi.
Et puis, la journée internationale de lutte contre les violences sexuelles a été célébrée hier lundi dans la province du Maniema. La Croix-Rouge a sensibilisé les femmes sur cette thématique. Elles étaient au moins 150 femmes de toutes les 3 communes de la ville de Kindu à bénéficier des enseignements sur les violences sexuelles et celle basée sur le genre. Cette sensibilisation a été facilitée par l'équipe de la CICR, la communauté internationale de la Croix-Rouge. Florence Kizalunga, reportage.
Après avoir montré aux participants les types de violences qui existent et leurs conséquences, il a été conseillé aux victimes de dénoncer au lieu de faire des arrangements à l'amiable. Théo Bélessi, chargé de la coopération CICR, site Kivu et Maniema.
Cette sensibilisation est très importante, c'est pour réveiller la conscience de femmes qui sont souvent violées à dénoncer et aussi à se rendre dans le site de référence pour qu'on puisse les prendre en charge. Et aussi une invitation à toutes les femmes, tout le monde, de sensibiliser toute personne afin de lutter contre les violences sexuelles.
Ravis de cette sensibilisation, les participantes ont pris l'engagement de sensibiliser les autres.
En tout cas, nous sommes très contentes de cette sensibilisation. Ça vient de nous ouvrir quand même les oreilles, de ne pas rester calme dès que nous sommes violés. Nous devons dénoncer et qu'on puisse quand même prendre en charge notre santé. On peut aussi sensibiliser les autres et leur montrer pour que nous puissions dénoncer ce qui nous arrive.
Ces femmes ont également déploré le fait que leurs violeurs, une fois arrêtés, y sont relâchés. Ainsi, elles ont demandé aux autorités de prendre leurs responsabilités en main. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Début ce mardi à Zongo, dans le Congo central, de l'atelier de plaidoyer et d'échanges sur la lutte contre l'impunité et la lutte contre la corruption, ainsi que la réforme du secteur judiciaire et pénitentiaire. Au cours de cet atelier organisé par les Nations Unies, les délégués du Parlement, du gouvernement, du Conseil supérieur de la magistrature, des structures spécialisées ainsi que de la société civile discuteront pour harmoniser leurs vues sur la réforme de la justice, de l'administration pénitentiaire, en vue d'améliorer la gouvernance et de combattre l'impunité ainsi que la corruption. Pour le coordonnateur du programme Gouvernance et lutte contre la corruption OPNUD, cet atelier vise à formuler un plaidoyer pour faire aboutir la politique nationale des réformes de la justice 2017-2026 et de la stratégie nationale de lutte contre la corruption 2022-2026. On écoute Jules Kabangou au micro de Michel Kifindangoy.
Il y a quelques entités des Nations Unies qui se sont réunies pour organiser cette activité. Il s'agit particulièrement du PNUD, de la MONUSCO à travers le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, la section d'appui à la justice et l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire. L'idée pour nous, c'est de pouvoir mettre autour d'une même table les différents acteurs étatiques qui œuvrent dans la réforme législative et pour leur permettre d'avoir un cadre d'échange et harmoniser sur certaines réformes législatives la loi portant statut des magistrats qui a été adoptée et qui a été envoyée à l'Assemblée nationale pour seconde lecture. Et nous avions aussi mis sur table la loi anticorruption qui jusque-là traîne encore au niveau de l'Assemblée nationale. Mais enfin, il y a la loi sur l'aide légale ou l'aide judiciaire qui, avec les activités que nous menons au quotidien, nous voulons pousser à ce que l'adoption se fait avant la fin de cette législature.
Dans la province du Maniema, le syndicat national des chefs de travaux et assistants alerte les autorités nationales concernant la paie complémentaire à l'ESSU. Son délégué dans cette province demande au gouvernement de faire un suivi quant à l'exécution de cette paie dans d'autres provinces que la ville de Kinshasa. Le chef de travaux Paul Kalambula Ndiapanda demande au personnel scientifique de l'ESSU Maniema de garder leur mal en patience en attendant que le gouvernement congolais exécute cette paie. Le délégué provincial Lucien Kass Maniema, Paul Kalambula Ndiapanda, est au micro de Florence Kizalunga.
Ce qui me pousse d'être devant votre micro ce matin, c'est en rapport avec la paie complémentaire que le gouvernement avait jugé bon de pallier parmi tant de préoccupations que les personnels scientifiques avaient soulevé au niveau des accords de Bibois. Le gouvernement a jugé bon de commencer à résoudre ces problèmes. Et au niveau de la ville-province de Kinshasa, il y a certains établissements qui touchent, par exemple, au niveau de l'Equity Bank, qui ont déjà bénéficié cette paye complémentaire des mois de février. Malheureusement, dans la province du Maniema, aucune institution de l'enseignement supérieur et universitaire n'est encore bénéficiaire de cette paye. C'est pourquoi je viens demander au gouvernement de faire un suivi pour savoir à quel niveau cette paye n'est pas exécutée à la province du Maniema.
En province d'Ikwilou, la CENI s'est dit prête pour l'opération de réception et de traitement des candidatures à la députation devant débuter le 25 juin prochain. Cela après la clôture hier lundi de la formation de niveau 2 qui a été organisée à Bandundu à l'intention des agents qui vont travailler dans les bureaux de réception et traitement de ces candidatures. D'après le secrétaire exécutif provincial de la CENI Kwilu, Jean-Robert Mouyensé, plus de 50 agences vont être déployées dans au moins 7 bureaux prévus à travers la province pour cette opération. On écoute Jean-Robert Mouyensé au micro d'Irène Boma.
Nous, CENI, nous sommes prêtes pour l'opération du dépôt de candidature qui va commencer le 26 juin parce que cette formation qui a eu lieu pendant 8 jours ici au centre Ntomwa Bandunduville, nous avons organisé 2 évaluations. La première, c'était l'évaluation à mi-parcours et tout à l'heure là, nous venons d'organiser une évaluation finale. Et à l'issue de ces 2 évaluations, nous allons retenir 56 candidats sur les 77. Et ce sont les 56 candidats qui vont travailler dans les 7 bureaux de réception et traitement de candidature. Nous pouvons dire que nous allons rendre à la nation à travers la province du Kwilu, un meilleur service. Les 7 bureaux de réception et traitement des candidatures seront installés dans les antennes de la CENI qui sont installées dans la province du Kwilu. Ici à Bandunduville, ça sera au bureau du CEP. À Bagata, ça sera au bureau de l'antenne. À Massimanima, ça sera au bureau de l'antenne. Kikwiti, Gungu, Bagata, Bulungu. Bref, tous ces 7 bureaux seront installés là où se trouvent les antennes de la CENI.
Inauguré le 20 juin 1983 par l'ancien président Mobutu, le célèbre pont maréchal à Matadi fête ses 40 ans d'existence aujourd'hui. Cette passerelle suspendue, déportée à la fois nationale et internationale, traverse le fleuve Congo et permet de relier par route les villes de Matadi et Boma. À l'occasion de son 40e anniversaire, l'Organisation pour l'équipement de Banana Kinshasa, OEBK, organise une grande cérémonie à laquelle prennent part plusieurs délégations, notamment congolaises et nippones. Mais que retenir du pont maréchal et dans quel état se trouve-t-il 40 ans après? Élément de réponse dans ce reportage de Nana Plurich Mambou.
Situé à une cinquantaine de kilomètres à l'aval du fleuve Congo, le pont maréchal est un ouvrage du type suspendu. Cet édifice, dont la construction a débuté en 1979 et fut achevée en 1983, a été réalisé par un consortium d'entreprises japonaises et financé en partie par le gouvernement nippon sur requête du président Mobutu. Avec 722 mètres de longueur, 12 mètres de largeur et un tirant d'air de 520 mètres, le pont maréchal était jusqu'en 2018 le pont suspendu le plus long du continent africain. Il attire régulièrement des touristes. À ce jour, la stabilité et la pérennité de cet ouvrage sont compromises par des habitations et les nouveaux investissements des opérateurs économiques dont les activités continuent à fragiliser son ossature. Malheureusement, ces hommes d'affaires ne versent aucun franc congolais pour son éventuelle maintenance. Le flux de trafic des véhicules à gros tonnage provenant des différents ports de Matadi constitue un autre souci. En effet, selon un rapport technique établi par les experts japonais, les ponts Maréchal se trouvent parsemés de talus, des fissures et des nids de poules qui font pénétrer les eaux de pluie jusqu'à la plateforme métallique de l'édifice. Selon les maîtres d'ouvrage, les travaux de placement d'une nouvelle couche d'asphalte devaient être effectués 25 ans après la construction de cet édifice. Mais 40 ans après, ils ne se sont toujours pas réalisés. Matadi, Nana Plirish Mambu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le président ougandais Yoweri Museveni, 78 ans, a annoncé hier lundi avoir repris les cours normaux de ses fonctions. Ce, après avoir indiqué début juin qu'il avait été testé positif au Covid-19. Au Mali, une mission d'observation du référendum au pays a fait état hier lundi d'une participation de 28% dans le bureau où elle a été déployée, tandis qu'une querelle émergeait avec les autorités sur la tenue ou non de la consultation dans une région clé du Nord.
L'invité.
L'invité de ce journal est le médecin pédiatre de la ville de Bukavu, au sud Kivu. Docteur Mwanza Nangunia parle de la situation de la drépanocytose en RDC à l'occasion de la commémoration le 19 juin de la journée mondiale de lutte contre cette maladie. Docteur Mwanza Nangunia répond aux questions d'Emmanuel et la Mejua Kabedi.
Docteur Mwanza Nangunia, bonjour.
Bonjour, monsieur Lamej.
C'est quoi d'abord cette maladie qu'on appelle anémie SS ou drépanocytose?
La drépanocytose est une maladie du sang qui touche une protéine qu'on appelle hémoglobine et qui se transmet des parents vers les enfants. C'est une maladie génétique qui touche beaucoup plus les Noirs, les Arabes et les Indiens. Notre pays, il est le troisième pays le plus impacté par cette maladie après le Nigeria et l'Inde. Elle est caractérisée par des crises de douleur, des crises de manque de sang ou anémie, des troubles de croissance, mais également des épisodes de maladies fréquentes chez ces enfants. Et ces enfants, s'ils ne sont pas pris en charge, ils vont mourir avant de fêter l'âge de 5 ans.
Vous dites qu'elle se transmet par des parents, donc elle est évitable, comment la prévenir?
Oui, c'est une maladie évitable. Comme nous connaissons les modes de transmission, il faut seulement éviter les mariages à risque. Ça veut dire qu'il faut éviter que les personnes qui sont soit porteuses saines de se marier ensemble, ça veut dire que les AS et les AS ne puissent pas se marier ou que les SS qui sont malades ne puissent pas épouser les AS ou bien que les SS ne puissent pas se marier entre eux. Si on fait les tests de dépistage, si on connaît le statut de son hémoglobine, on peut facilement éviter cette maladie jusqu'à 100%.
Alors pour cette année 2023, comment vous passez cette journée? Quelle est la situation de la drépanocytose au sud Kivu pour cette année?
Disons d'abord, concernant la journée d'aujourd'hui, 19 juin 2023, le thème qui a été retenu, c'est la prévention de la maladie et protection des drépanocytaires, une nécessité pour la lutte. Maintenant, concernant la province du sud Kivu, la situation au sud Kivu, elle est semblable à la situation du pays. Et je disais, comme vous le savez très bien, le pays est le troisième au monde, mais il est le deuxième en Afrique. Dans notre pays, les statistiques que nous avons, 25 à 30% de la population congolaise est porteuse de ces gènes S. Et donc, vous comprenez que les AS, si vous prenez 30%, ça représente à peu près 27 millions de Congolais qui sont porteurs de cette maladie. Dans la province du Sud Kivu, depuis le mois de novembre 2022 jusqu'à au mois de mars 2023, on a réalisé 1779 tests chez les femmes enceintes dans la zone de santé d'Ibanda. Et parmi les 1779 femmes enceintes, il y avait 154 femmes qui étaient AS. 154 femmes. Pendant la même période, nous avons testé 62 enfants qui sont venus avec les signes de la maladie. Parmi les 62, il y avait 54 qui étaient SS. Déjà, c'est très, très, très grave. Et pendant cette même période, nous avons réalisé 22 tests chez les nouveaux-nés, les mères qui ont accouché. Parmi ces 22, il y avait 18 enfants qui étaient des AS.
À la naissance. Alors, comment se fait le traitement de la drépanocytose? Existe-t-il une structure de traitement de drépanocytose au sud Kivu?
Il y a une structure. La petite clinique Amis des enfants, c'est la seule structure qui a su intégrer la prise en charge de la drépanocytose dans les paquets d'activités qu'il offre à la population. Et je peux vous confirmer qu'aujourd'hui, nous avons 180 enfants qui suivent les soins dans cette structure. Et puis, il faut le dire, c'est gratuitement qu'ils reçoivent ces soins. Et si nous devons parler du traitement, en réalité, lorsque ces enfants ils sont pris en charge très tôt, et d'une manière régulière et suivie, et ces enfants ils mènent une vie correcte avec même des petits moyens. Mais notre but, nous voulons qu'on intègre la prise en charge de la drépanocytose dans toutes les structures de santé dans la province. Maintenant, en cas de complications, c'est à ce moment-là qu'on peut recourir à des centres beaucoup plus spécialisés.
Docteur Monzalangounia, merci.
À moi de vous remercier, monsieur le journaliste.
C'était l'invité de ce journal, le médecin pédiatre de la ville de Bukavu, au sud Kivu, Dr Mwanza Nangunia, s'entretenait à Bukavu avec Emmanuel Elamejiwa Kabedi. Fin de ce journal, merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.